Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2025 Examination in French. Paper 1. Listening.
Question 1 à 8. Écoutez ces quatre enregistrements. Vous allez entendre chaque enregistrement deux fois. Il y a une pause après chaque enregistrement. Puis, pour chaque question, cochez la bonne case A, B, C ou D. Cochez une seule case pour chaque question. Enregistrement 1. Un problème de portable. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
Bonjour Ousmane. Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné dimanche?
C'est mon portable. L'écran est fantastique, mais je dois attendre la connexion tout le temps. Et je finis par devoir le rallumer.
Oh là là! Tu viens de l'acheter, n'est-ce pas?
Oui. Je suis déjà retournée à la boutique. Ils l'ont regardé et m'en ont donné un autre. Mais figure-toi, celui-là ne fonctionne pas non plus. Je vais y retourner encore une fois aujourd'hui. J'en ai vraiment marre.
Ils devraient te le rembourser. Pas la peine de le faire réparer.
Tu as raison. Et ensuite, je trouverai un autre modèle en ligne. Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Bonjour Ousmane. Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné dimanche?
C'est mon portable. L'écran est fantastique. Mais je dois attendre la connexion tout le temps. Et je finis par devoir le rallumer.
Oh là là! Tu viens de l'acheter, n'est-ce pas?
Oui. Je suis déjà retournée à la boutique. Ils l'ont regardé et m'en ont donné un autre. Mais figure-toi, celui-là ne fonctionne pas non plus. Je vais y retourner encore une fois aujourd'hui. J'en ai vraiment marre.
Ils devraient te le rembourser. Pas la peine de le faire réparer.
Tu as raison. Et ensuite, je trouverai un autre modèle en ligne. Enregistrement 2. Un problème dans une station balnéaire. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
Très mauvaise surprise pour les habitants de Tornic, station balnéaire de Loire-Atlantique, juste avant l'ouverture de la saison estivale. Alors qu'on s'apprête à accueillir les premiers touristes, les habitants ont remarqué des millions de petites boules de plastique arriver sur les plages suite à une nuit de tempête. Il s'agit de morceaux de plastique qui servent à fabriquer divers produits industriels. Invisibles de loin, ces petites boules d'à peine 1 cm sont impossibles à ramasser. La marée finira par les emporter, mais cela représente une pollution dramatique pour les écosystèmes de la mer, même si l'on peut toujours se promener sur la plage.
Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Très mauvaise surprise pour les habitants de Tornic, station balnéaire de Loire-Atlantique, juste avant l'ouverture de la saison estivale. Alors qu'on s'apprête à accueillir les premiers touristes, les habitants ont remarqué des millions de petites boules de plastique arrivées sur les plages suite à une nuit de tempête. Il s'agit de morceaux de plastique qui servent à fabriquer divers produits industriels. Invisibles de loin, ces petites boules d'à peine 1 cm sont impossibles à ramasser. La marée finira par les emporter, mais cela représente une pollution dramatique pour les écosystèmes de la mer, même si l'on peut toujours se promener sur la plage.
Enregistrement 3. Deux collègues parlent d'un concert. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions. Bonjour Michel. Le concert, hier soir, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Nous étions super contents de votre recommandation, mon mari et moi. Alors, merci. Et de plus, j'avais trouvé des billets à prix réduit sur le site web.
Très bien.
Mais ça n'a pas été une soirée parfaite.
Pourquoi ?
Le métro ne fonctionnait pas. Alors, on est arrivé après le début.
Mais la musique ?
Oh, comme vous l'avez dit, incroyable. Mais on avait l'intention de dîner au restaurant avant le concert et on n'a pas eu le temps.
Écoutez de nouveau l'enregistrement. Bonjour Michel. Le concert, hier soir, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Nous étions super contents de votre recommandation, mon mari et moi. Alors, merci. Et de plus, j'avais trouvé des billets à prix réduit sur le site web.
Très bien.
Mais ça n'a pas été une soirée parfaite.
Pourquoi ?
Le métro ne fonctionnait pas, alors on est arrivé après le début.
Mais la musique ?
Oh, comme vous l'avez dit, incroyable. Mais on avait l'intention de dîner au restaurant avant le concert et on n'a pas eu le temps.
Enregistrement 4. Une personnalité décide de partir. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions.
Guillaume le Jeune, vétéran de la radio locale, et suivi par des milliers d'auditeurs passionnés, va finalement arrêter son programme quotidien. Il en a fait l'annonce hier, à la fin de son émission. Je voulais lui demander s'il prenait sa retraite, après nous avoir accompagnés chaque matin pendant ces 30 dernières années au micro. Alors, Guillaume?
Eh bien, à 70 ans, j'ai droit à une grasse matinée de temps en temps, non? Mais j'ai aussi plein de projets. Dans un premier temps, je vais animer une émission de musique hebdomadaire destinée à un public de jeunes. Ma femme me pousse à raconter mes expériences dans un livre, mais ça ne m'intéresse pas. Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Guillaume Lejeune, vétéran de la radio locale et suivi par des milliers d'auditeurs passionnés, va finalement arrêter son programme quotidien. Il en a fait l'annonce hier, à la fin de son émission. Je voulais lui demander s'il prenait sa retraite, après nous avoir accompagnés chaque matin pendant ces 30 dernières années au micro. Alors, Guillaume?
Eh bien, à 70 ans, j'ai droit à une grasse matinée de temps en temps, non? Mais j'ai aussi plein de projets. Dans un premier temps, je vais animer une émission de musique hebdomadaire destinée à un public de jeunes. Ma femme me pousse à raconter mes expériences dans un livre, mais ça ne m'intéresse pas. Questions 9 à 14. Vous allez entendre 6 personnes parler de l'exercice physique. Vous allez entendre l'enregistrement 2 fois. Pour chaque personne, choisissez dans la liste A à H l'idée qui correspond à ce que dit la personne. Indiquez votre réponse en écrivant la bonne lettre A à H sur la ligne. Utilisez chaque lettre une seule fois. Sur les 8 lettres, il y en a 2 dont vous n'aurez pas besoin. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les phrases. Je m'appelle Francis. J'ai longtemps souffert d'un mal de dos. L'exercice physique, je trouvais cela douloureux. Je pouvais à peine marcher 100 mètres sans effort et pouvais tout juste monter l'escalier tant je souffrais. Des amis m'ont convaincu des bienfaits de la natation. Et maintenant, je me rends chaque jour avec eux à la piscine. Le résultat, je vais partout à pied et sans aucune douleur.
Moi, je m'appelle Annick. Je n'ai jamais été très sportive. Je n'étais pas très bonne en sport au collège. Cependant, après des années d'inactivité, j'ai rejoint un groupe local qui faisait de la natation sauvage. Autrefois, Nager était pour moi un passe-temps ennuyeux. Mais maintenant, me baigner dans un lac ou une rivière, en pleine nature, avec des amis, c'est plus convivial et tout à fait différent. J'adore ça.
Bonjour, je m'appelle Maurice. Le sport, pour le sport en soi, me paraissait toujours une perte de temps. Jusqu'au jour où j'ai eu une conversation avec mon médecin au sujet d'un problème d'hypertension. Cela a été le déclic. À l'âge de 50 ans, je devais absolument faire attention à ma santé. Pas de choix. Alors, toujours un peu malgré moi, je me suis inscrit au gymnase local.
Moi, c'est Diane. Quand j'ai fêté mes 40 ans, j'ai décidé, sans beaucoup d'optimisme, d'essayer de reprendre les sports de ma jeunesse. Franchement, j'avais peur d'échouer parce que je pensais que ça serait trop dur pour moi. Aujourd'hui, à 60 ans, je ne suis toujours pas une grande sportive, mais faire un peu d'exercice, ça me donne une énorme satisfaction. À mon âge, on n'est pas forcément sur la pente glissante.
Et moi, je m'appelle Guillaume. Je me suis mis au sport tard dans la vie, à un âge où les aptitudes physiques déclinent. J'ai commencé à courir et je viens de participer à une course de 20 km. Pourquoi ? Pour le plaisir du contact avec la nature. Mais ce qui me fait surtout continuer, c'est que j'avais autrefois une tendance à la paresse. Alors, si je m'arrête de courir, j'ai peur de rechuter.
Moi, je suis Adia. À mon âge, je ne suis plus capable de faire des activités physiques exigeantes, car je ne suis plus toute jeune. Le médecin m'a averti que je risque de tomber et de me faire mal. Mais ce n'est pas la motivation qui me manque. Je me pousse à marcher dans la nature autant que je peux et je fais des exercices, mais en position assise.
Écoutez de nouveau l'enregistrement. Je m'appelle Francis. J'ai longtemps souffert d'un mal de dos. L'exercice physique, je trouvais cela douloureux. Je pouvais à peine marcher 100 mètres sans effort et pouvais tout juste monter l'escalier tant je souffrais. Des amis m'ont convaincu des bienfaits de la natation. Et maintenant, je me rends chaque jour avec eux à la piscine. Le résultat, je vais partout à pied et sans aucune douleur.
Moi, je m'appelle Annick. Je n'ai jamais été très sportive. Je n'étais pas très bonne en sport au collège. Cependant, après des années d'inactivité, j'ai rejoint un groupe local qui faisait de la natation sauvage. Autrefois, nager était pour moi un passe-temps ennuyeux. Mais maintenant, me baigner dans un lac ou une rivière, en pleine nature, avec des amis, c'est plus convivial et tout à fait différent. J'adore ça.
Bonjour, je m'appelle Maurice. Le sport, pour le sport en soi, me paraissait toujours une perte de temps. Jusqu'au jour où j'ai eu une conversation avec mon médecin au sujet d'un problème d'hypertension. Cela a été le déclic. À l'âge de 50 ans, je devais absolument faire attention à ma santé. Pas de choix. Alors, toujours un peu malgré moi, je me suis inscrit au gymnase local.
Moi, c'est Diane. Quand j'ai fêté mes 40 ans, j'ai décidé, sans beaucoup d'optimisme, d'essayer de reprendre les sports de ma jeunesse. Franchement, j'avais peur d'échouer parce que je pensais que ça serait trop dur pour moi. Aujourd'hui, à 60 ans, je ne suis toujours pas une grande sportive, mais faire un peu d'exercice, ça me donne une énorme satisfaction. À mon âge, on n'est pas forcément sur la pente glissante.
Et moi, je m'appelle Guillaume. Je me suis mis au sport tard dans la vie, à un âge où les aptitudes physiques déclinent. J'ai commencé à courir et je viens de participer à une course de 20 km. Pourquoi ? Pour le plaisir du contact avec la nature. Mais ce qui me fait surtout continuer, c'est que j'avais autrefois une tendance à la paresse. Alors, si je m'arrête de courir, j'ai peur de rechuter.
Moi, je suis Adia. À mon âge, je ne suis plus capable de faire des activités physiques exigeantes, car je ne suis plus toute jeune. Le médecin m'a averti que je risque de tomber et de me faire mal. Mais ce n'est pas la motivation qui me manque. Je me pousse à marcher dans la nature autant que je peux et je fais des exercices, mais en position assise.
Questions 15 à 20. Vous allez entendre un reportage et lire un résumé de ce reportage. Vous allez entendre l'enregistrement deux fois. Pour chaque blanc, 15 à 20, choisissez l'option qui convient le mieux dans le résumé. Indiquez votre réponse en cochant la case appropriée A, B ou C. Cochez une seule case pour chaque question. Vous avez maintenant une minute pour lire le résumé et les options.
Au début du mois, un poste à cheval de la gendarmerie a été inauguré à côté de la plage de Granville. 5. Cavaliers gendarmes y ont été envoyés, bien que leur rôle soit méconnu d'un grand public se méfiant parfois des nouveautés. Le chef de la gendarmerie a déclaré qu'à cheval, ces gendarmes, voyant plus loin, pourront ainsi faire leur travail de prévention. En été, ils patrouilleront les dunes. Et, dans cette ambiance de sable, les chevaux pourront circuler sans problème, tout en respectant le calme de l'environnement naturel. Selon un gendarme, lors des contacts avec le public, le cheval apporte un élément de sympathie. Pour un gendarme monté, il est facile de s'approcher assez rapidement des visiteurs pour entamer ensuite une conversation détendue avec eux. Il ne faut quand même pas oublier l'aspect policier. Ces cavaliers agiront en cas de toute infraction à la loi qui se produirait dans la zone des plages, que ce soit un comportement inapproprié ou dangereux. Ils paraissent peut-être appartenir au passé, mais ils sont avant tout des gendarmes. Et même quand ils arrivent montés sur un cheval magnifique, c'est pour exercer leur fonction de maintien de l'ordre.
Écoutez de nouveau l'enregistrement.
Au début du mois, un poste à cheval de la gendarmerie a été inauguré à côté de la plage de Granville. 5 cavaliers gendarmes y ont été envoyés, bien que leur rôle soit méconnu d'un grand public se méfiant parfois des nouveautés. Le chef de la gendarmerie a déclaré qu'à cheval, ces gendarmes, voyant plus loin, pourront ainsi faire leur travail de prévention. En été, ils patrouilleront les dunes. Et, dans cette ambiance de sable, les chevaux pourront circuler sans problème, tout en respectant le calme de l'environnement naturel. Selon un gendarme, lors des contacts avec le public, le cheval apporte un élément de sympathie. Pour un gendarme monté, il est facile de s'approcher assez rapidement des visiteurs pour entamer ensuite une conversation détendue avec eux. Il ne faut quand même pas oublier l'aspect policier. Ces cavaliers agiront en cas de toute infraction à la loi qui se produirait dans la zone des plages, que ce soit un comportement inapproprié ou dangereux. Ils paraissent peut-être appartenir au passé, mais ils sont avant tout des gendarmes. Et même quand ils arrivent montés sur un cheval magnifique, c'est pour exercer leur fonction de maintien de l'ordre.
Questions 21 à 30. Vous allez entendre une interview avec Béa, artiste, qui peint des galets, de petites pierres qu'elle trouve dans la nature. Vous allez entendre l'interview deux fois. Choisissez pour chaque question la réponse appropriée en cochant la bonne case A, B ou C. Cochez seulement une case pour chaque question. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions. Aujourd'hui, nous parlons avec Béa, qui fait des peintures réalistes sur des galets, de petites pierres trouvées dans la nature. Béa, vous êtes peintre professionnel dans un genre très spécialisé. Comment cela s'est passé?
Par hasard, je me promenais un jour avec mon chien et j'ai glissé sur un galet, une pierre ronde et lisse. Je l'ai mise dans ma poche et...
Ce premier galet, il avait quelque chose de spécial? Il était très coloré ou brillant?
Pas tellement. Simplement, il paraissait ressembler à un animal. Une fois chez moi, je l'ai regardé longtemps. Et je me suis mise à le peindre. J'ai trouvé que c'était une petite souris. Elle m'a plu, cette souris. Ma petite sœur a tout de suite voulu jouer avec, mais quand ma mère l'a vue, elle a dit que ça plairait aux gens et que je devais en peindre plus. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé.
Et vous préférez donner vie surtout aux petits animaux mignons comme la souris?
Pas forcément. Ça dépend de l'impression que je reçois du galet. D'abord, il faut qu'il me rappelle une créature qui vit libre dans la nature. Une souris ou même un tigre. Mais le résultat final peut varier énormément. Un insecte, peut-être, ou quelque chose d'aussi grand qu'une tortue de mer. Je ne peins pas n'importe quel animal sur n'importe quelle pierre. C'est plutôt que chacune de mes pierres possède une personnalité. Et c'est à moi de la révéler. Quand je tiens la pierre dans ma main, je lui raconte sa vie comme animal.
Vous avez fait des études artistiques?
Non, non. En peinture, je suis autodidacte. Par contre, j'ai fait 3 ans d'études en commerce. Mais je me préparais à travailler dans le monde des affaires avec beaucoup de regrets. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose qui me fasse autant plaisir.
Vous n'avez jamais été tenté de peindre sur des toiles ou sur du papier? Des pierres, ça paraît être une matière tellement inerte.
Jamais de la vie! Une simple pierre peinte peut avoir plein de caractères. On peut l'apprécier à plusieurs niveaux. Une peinture sur toile ou sur papier, par contre, aussi belle soit-elle, est plus limitée.
Donc, vous vous considérez sculptrice, d'une certaine manière?
Pas du tout. Pour moi, un sculpteur révèle beaucoup de lui-même. Par contre, ce que je fais est différent. Je veux que les gens s'identifient à l'objet lui-même, plutôt qu'à la manière de peindre de l'artiste.
Et ces galets spéciaux, vous les trouvez comment?
J'habite tout près de la mer. Alors, je m'y rends chaque jour pour me promener sur la plage. Je suis toujours à la recherche de pierres attirantes. Parfois, les gens m'en envoient, mais cela ne fonctionne pas. C'est une affaire trop personnelle.
Et que faites-vous pour vendre vos créations?
Je me sers des réseaux sociaux. J'y affiche des photos et je reçois des messages des gens intéressés. J'apprécie les ventes, bien sûr, mais moi, je ne veux absolument pas rencontrer des clients ou avoir à parler à des journalistes trop curieux. Récemment, une galerie parisienne m'a appelé pour me dire qu'il voulait monter une exposition de mon œuvre. Œuvre tellement novatrice qu'il voulait la faire connaître au public mondial et me rendre riche. Des bêtises, quoi. J'ai dit pas question.
Je comprends. Vous souhaitez préserver votre vie privée d'artiste. Merci, Béa, et bonne chance. Écoutez de nouveau l'enregistrement. Aujourd'hui, nous parlons avec Béa, qui fait des peintures réalistes sur des galets, de petites pierres trouvées dans la nature. Béa, vous êtes peintre professionnel dans un genre très spécialisé. Comment cela s'est passé?
Par hasard. Je me promenais un jour avec mon chien et j'ai glissé sur un galet, une pierre ronde et lisse. Je l'ai mise dans ma poche et...
Ce premier galet, il avait quelque chose de spécial? Il était très coloré ou brillant?
Pas tellement. Simplement, il paraissait ressembler à un animal. Une fois chez moi, je l'ai regardé longtemps et je me suis mise à le peindre. J'ai trouvé que c'était une petite souris. Elle m'a plu, cette souris. Ma petite sœur a tout de suite voulu jouer avec, mais quand ma mère l'a vue, elle a dit que ça plairait aux gens et que je devais en peindre plus. Et voilà. C'est comme ça que tout a commencé.
Et vous préférez donner vie surtout aux petits animaux mignons comme la souris?
Pas forcément. Ça dépend de l'impression que je reçois du galet. D'abord, il faut qu'il me rappelle une créature qui vit libre dans la nature. Une souris ou même un tigre. Mais le résultat final peut varier énormément. Un insecte, peut-être, ou quelque chose d'aussi grand qu'une tortue de mer. Je ne peins pas n'importe quel animal sur n'importe quelle pierre. C'est plutôt que... Chacune de mes pierres possède une personnalité, et c'est à moi de la révéler. Quand je tiens la pierre dans ma main, je lui raconte sa vie comme animal.
Vous avez fait des études artistiques?
Non, Non. En peinture, je suis autodidacte. Par contre, j'ai fait 3 ans d'études en commerce. Mais je me préparais à travailler dans le monde des affaires avec beaucoup de regrets. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose qui me fasse autant plaisir.
Vous n'avez jamais été tenté de peindre sur des toiles ou sur du papier? Les pierres, ça paraît être une matière tellement inerte.
Jamais de la vie! Une simple pierre peinte peut avoir plein de caractères. On peut l'apprécier à plusieurs niveaux. Une peinture sur toile ou sur papier, par contre, aussi belle soit-elle, est plus limitée.
Donc, vous vous considérez sculptrice, d'une certaine manière?
Pas du tout. Pour moi, un sculpteur révèle beaucoup de lui-même. Par contre, ce que je fais est différent. Je veux que les gens s'identifient à l'objet lui-même, plutôt qu'à la manière de peindre de l'artiste.
Et ces galets spéciaux, vous les trouvez comment?
J'habite tout près de la mer. Alors, je m'y rends chaque jour pour me promener sur la plage. Je suis toujours à la recherche de pierres attirantes. Parfois, les gens m'en envoient, mais cela ne fonctionne pas. C'est une affaire trop personnelle.
Et que faites-vous pour vendre vos créations?
Je me sers des réseaux sociaux. J'y affiche des photos et je reçois des messages des gens intéressés. J'apprécie les ventes, bien sûr, mais moi, je ne veux absolument pas rencontrer des clients ou avoir à parler à des journalistes trop curieux. Récemment, une galerie parisienne m'a appelé pour me dire qu'il voulait monter une exposition de mon œuvre. Œuvre tellement novatrice qu'il voulait la faire connaître au public mondial et me rendre riche. Des bêtises, quoi. J'ai dit pas question.
Je comprends. Vous souhaitez préserver votre vie privée d'artiste. Merci, Béa, et bonne chance. Questions 31 à 40. Vous allez entendre Marcel, 85 ans, qui raconte ses expériences en tant que défenseur de la rivière de son village. Vous allez entendre l'enregistrement 2 fois. Choisissez pour chaque question la réponse appropriée en cochant la bonne case A, B ou C. Cochez seulement une case pour chaque question. Vous avez maintenant 1 minute pour lire les questions. Vous savez, je suis né ici il y a 85 ans. Et ça fait un quart de siècle que je lutte pour sauvegarder la rivière de notre village. Les habitants n'ont pas toujours aimé suffisamment leur rivière. Aujourd'hui, ils l'apprécient, je crois. Mais la sensibilisation s'est faite assez lentement. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger, mais je n'ai jamais oublié mes origines. Quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu au village. Un matin, je me suis promené au bord de la rivière. Je voulais m'assurer que rien n'avait changé, mais je me suis arrêté net quand j'ai vu les déchets et la couleur jaunâtre de l'eau. Je suis allé vérifier l'étang du moulin où j'adorais nager quand j'étais petit garçon. Je ne voyais aucun poisson. Et je me rappelais les vieux du village qui y pêchaient tous les jours. Franchement, j'ai eu honte. À cette époque-là, il y a 30 ans, les gens ne se préoccupaient pas de la rivière. Le ramassage des ordures par la municipalité n'était pas organisé comme il l'est maintenant, avec des camions chaque semaine. Les gens allaient jeter leurs déchets à l'eau sans y penser. Et la rivière ressemblait à un égout à ciel ouvert. Alors, à l'âge de 60 ans, je suis devenu activiste. D'abord, j'ai porté plainte contre le gouvernement provincial. On a fait des tests dans la rivière et les inspecteurs ont été choqués. Ils ont classé la rivière comme une des pires de la province. Ma première réussite. J'en conserve jusqu'à ce jour tous les documents. À la suite de cette évaluation, le fonctionnaire en charge de l'environnement a dû quitter son poste. Mais, à part ça, les choses n'ont pas vraiment changé. L'état de la rivière restait toujours inacceptable. J'ai décidé d'essayer de mobiliser la communauté. On m'a élu conseiller municipal. Et ensuite, j'ai proposé une campagne d'éducation environnementale au directeur de l'école primaire. De cette manière, on allait demander aux enfants de nous aider à convaincre les adultes. Je voulais rappeler aux habitants la beauté de la rivière d'autrefois, dont mon père avait pris de belles photos. Comme j'en étais fier, je les avais gardées. Alors, j'ai décidé de monter une exposition à la mairie. Je voulais faire comprendre aux gens ce qu'ils avaient perdu par négligence et ce qu'ils pourraient retrouver. Et le moment clé du grand changement, c'est quand on a invité les parents des élèves et qu'ils sont tous venus. Par la suite, j'ai lancé un appel. Le premier dimanche de chaque mois, on devait se réunir pour ramasser les déchets au bord de la rivière. Et des habitants de toutes les générations ont répondu en masse. Le premier dimanche, on a récolté presque une tonne de déchets. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les dimanches ensoleillés, après le travail, on organise une fête champêtre pour reconnaître les efforts des participants dans le joli pré qui borde la rivière. Les gens ont fini par apprécier leur rivière et ils en prennent soin. Voilà ce dont je rêvais il y a 25 ans. Écoutez de nouveau l'enregistrement. Vous savez, je suis né ici il y a 85 ans. Et ça fait un quart de siècle que je lutte pour sauvegarder la rivière de notre village. Les habitants n'ont pas toujours aimé suffisamment leur rivière. Aujourd'hui, ils l'apprécient, je crois. Mais la sensibilisation s'est faite assez lentement. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger, mais je n'ai jamais oublié mes origines. Quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu au village. Un matin, je me suis promené au bord de la rivière. Je voulais m'assurer que rien n'avait changé, mais je me suis arrêté net quand j'ai vu les déchets et la couleur jaunâtre de l'eau. Je suis allé vérifier l'étang du moulin où j'adorais nager quand j'étais petit garçon. Je ne voyais aucun poisson. Et je me rappelais les vieux du village qui y pêchaient tous les jours. Franchement, j'ai eu honte. À cette époque-là, il y a 30 ans, les gens ne se préoccupaient pas de la rivière. Le ramassage des ordures par la municipalité n'était pas organisé comme il l'est maintenant, avec des camions chaque semaine. Les gens allaient jeter leurs déchets à l'eau sans y penser. Et la rivière ressemblait à un égout à ciel ouvert. Alors, à l'âge de 60 ans, je suis devenu activiste. D'abord, j'ai porté plainte contre le gouvernement provincial. On a fait des tests dans la rivière et les inspecteurs ont été choqués. Ils ont classé la rivière comme une des pires de la province. Ma première réussite. J'en conserve jusqu'à ce jour tous les documents. À la suite de cette évaluation, le fonctionnaire en charge de l'environnement a dû quitter son poste. Mais, à part ça, les choses n'ont pas vraiment changé. L'état de la rivière restait toujours inacceptable. J'ai décidé d'essayer de mobiliser la communauté. On m'a élu conseiller municipal. Et ensuite, j'ai proposé une campagne d'éducation environnementale au directeur de l'école primaire. De cette manière, on allait demander aux enfants de nous aider à convaincre les adultes. Je voulais rappeler aux habitants la beauté de la rivière d'autrefois, dont mon père avait pris de belles photos. Comme j'en étais fier, je les avais gardées. Alors, j'ai décidé de monter une exposition à la mairie. Je voulais faire comprendre aux gens ce qu'ils avaient perdu par négligence et ce qu'ils pourraient retrouver. Et le moment clé du grand changement, c'est quand on a invité les parents des élèves et qu'ils sont tous venus. Par la suite, j'ai lancé un appel. Le premier dimanche de chaque mois, on devait se réunir pour ramasser les déchets au bord de la rivière. Et les habitants de toutes les générations ont répondu en masse. Le premier dimanche, on a récolté presque une tonne de déchets. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les dimanches ensoleillés, après le travail, on organise une fête champêtre pour reconnaître les efforts des participants dans le joli pré qui borde la rivière. Les gens ont fini par apprécier leur rivière et ils en prennent soin. Voilà ce dont je rêvais il y a 25 ans. Vous avez maintenant 6 minutes pour recopier vos réponses sur la feuille de réponse. Suivez les instructions indiquées sur la feuille de réponse.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'épreuve est terminée.
This is the end of the examination.